petite foulée, voici le grand pont culturel de cet Euro 2016. Quand j'étais gamin, dans les années 80, l'Albanie, c'était la Corée du Nord de l'Europe. Un pays très fermé, un pays très pauvre, une dictature contre qui on ne jouait jamais au football. Une équipe que Platini aurait pliée en 10 minutes. Mais cette année, c'est différent. C'est la toute première fois de son histoire que l'Albanie participe à une compétition internationale de football. Et hier soir, contre la France, ils ont livré un match valeureux, dans un bel esprit plutôt, et ils ont même failli ouvrir le score. Voilà, je voulais juste commencer ce soir avec ce clin d'œil aux Albanais qui ne vivent plus en Corée du Nord. Alors, qui sont nos trois visiteurs du soir? Eh bien, d'abord, il est violoniste de jazz et passionné de football, c'est compatible. C'est un vrai plaisir de l'accueillir. Didier Lockwood, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu.
Merci.
Et puis ce soir, à vos côtés, Didier, deux journalistes politiques, eux aussi amateurs de football. Renaud Dely, directeur de la rédaction de Marianne. Renaud, bonsoir.
Bonsoir, Philippe.
Vous êtes chez vous ici,
oh,
évidemment.
Merci de votre accueil.
Et enfin, il est journaliste lui aussi à la rédaction de la nouvelle édition sur Canal+, l'émission de la mi-journée présentée par Daphné Burki. Mathieu Depriec, bonsoir.
Bonsoir.
Et soyez le bienvenu, vous aussi. Par ailleurs, au programme ce soir, la baraque à foot, évidemment, le journal pop culture de cet Euro 2016, c'est signé Joy Raffin. Bonsoir, Joy.
Bonsoir, Colin. Bonsoir à tous.
Alors, de quoi on parle ce soir?
On va parler d'un bus allemand, on va parler de... une chanson sur un hymne irlandais, ça va être super, vous allez voir.
Eh bien, merci beaucoup, Joy. Ensuite, vers 20h30, nous serons en duplex du Stade de France à Saint-Denis, où nous attend Franck Ballanger avant ce match un peu particulier qui va opposer tout à l'heure l'Allemagne à la Pologne. Et enfin, un peu avant 21h, vous découvrirez un nouveau DDF, un dingue de foot. Ce soir, il s'appelle Hervé, c'est un supporter de l'équipe de France. Voilà, surtout n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans L'Œil du Tigre version Daily.
Philippe Collin, L'Œil du Tigre sur France Inter.
Alors ce soir, je commence avec vous, Renaud Dely. Est-ce que vous avez vu ce match d'hier soir, Renaud?
Absolument, et jusqu'au bout.
Ah oui, c'était important.
Voilà.
Première question, où vous l'avez vu ce match?
Je l'ai vu chez moi, pour une raison qui est commune, je pense, à beaucoup de gens, pour une raison particulière, c'est que j'ai un fils qui est absolument dingue de foot. Et dès que je peux, je regarde les matchs avec lui.
D'accord. Ouais. Et vous en avez pensé quoi de ce match, Renaud?
J'en ai pensé un peu comme tout le monde. C'est-à-dire que le prochain match de l'équipe de France, je pense que je regarderai les 5 dernières minutes, histoire de gagner du temps. Non, mais c'est vrai que ça a été poussif, douloureux, on l'a tous vu. On n'a pas vraiment une équipe encore vraiment avec un jeu huilé. On voit une fébrilité, etc. et tout. Et puis, il y a juste des ressources psychologiques. Voilà. Il y a des ressources psychiques évidentes dans cette équipe, puisqu'elle se bat jusqu'au bout. C'est la deuxième fois qu'on le voit. Et puis, il y a des talents individuels. Hein. Il y a des perles. Il y a évidemment Payet, en particulier, même si c'était pas le seul. Et voilà. Tout ça fait pas encore une équipe extrêmement rassurante, mais croisons les doigts.
Mais ça avance, ça avance. Didier Lockwood, vous l'avez vu ce match hier soir ou pas?
Oui, j'ai regardé ce match.
Où ça alors? Vous étiez où?
Chez moi.
Chez vous, tranquillement, en famille?
Tranquille, oui.
D'accord.
Et non, c'était...
Vous en avez pensé quoi?
Très intéressant. Oui. C'était très vivant et surtout, c'est bien de voir des sportifs qui se démènent et qui se donnent, en fait.
Mathieu Depriec, ce match, vous l'avez vu où hier soir?
Je l'ai vu chez moi, avec ma femme.
Ah oui, d'accord.
Silence, concentration.
Ah, oui.
J'avais fait l'erreur au premier match d'inviter des amis, et puis ça parle un peu de tout. On est très déconcentré. C'est très agaçant parce qu'on n'arrive pas à se concentrer sur l'action, à voir effectivement si l'équipe de France joue bien ou mal. Hier, j'étais bien concentré. J'ai vu qu'elle avait joué mal.
Plutôt mal, on est d'accord. Oui, hein, on est bien d'accord. C'est une question que je pose aussi à tous nos visiteurs du soir parce que je trouve ça important. En tous les cas, je crois que c'est important parce que ça raconte un souvenir personnel et en même temps une mémoire collective. Quel est pour vous, pour chacun d'entre vous, votre premier souvenir de football? Didier Lockwood, est-ce que vous avez un souvenir enfant de football?
Oui, j'étais gardien de but dans l'équipe de Calais, finaliste de la Coupe de France.
Bien sûr, bien sûr.
Le CRUFC, ça date, hein, ça remonte. Mais j'adorais le foot, mais j'adorais plonger. Mais j'étais surtout nageur. J'ai fait la natation de compétition. J'étais dans l'équipe de France.
Ça, c'est vrai. Bien sûr, j'ai lu ça aujourd'hui.
Et donc, j'ai pas pu continuer le football comme j'aurais aimé le faire, mais j'ai toujours joué au football et encore récemment joué dans l'équipe de Barbizon avec mes amis Georges Chelon, etc.
Mathieu Depriec, un premier souvenir de football?
Ça remonte à 1994. c'est pas exactement un souvenir de football. L'équipe de France est éliminée par la Bulgarie, elle participe pas au mondial aux États-Unis, mais moi j'habitais à Dunkerque, donc tout près de la frontière belge, et je regardais la RTBF et je voyais passer en boucle une pub pour les Diables Rouges, donc pour l'équipe de Belgique qui partait aux États-Unis, et le slogan était « Tous en Amérique avec Jupiler ». Et je trouvais ça génial parce que en France, on n'avait pas cette ferveur autour du mondial parce que bien la France n'était pas qualifiée, c'est passé un peu inaperçu. Mais en regardant la télé belge, on retrouvait cette ferveur, et puis c'était... À l'époque, je ne m'en rendais pas compte parce que je n'étais pas trop porté sur la bière, quoique. Mais de retrouver comme ça une pub pour la bière, de dire juste « Tous en Amérique », cet enthousiasme autour de l'équipe de Belgique, ça m'a compensé un peu la déception qu'on avait eue autour de l'équipe de France.
Évidemment. Renaud Dely, un premier souvenir de foot ?
Moi, mes tout premiers souvenirs de foot, c'est assez ordinaire, mais c'est l'épopée des Verts 76. J'avais 7 ans et j'ai baigné là-dedans. Et pour moi, c'est les souvenirs, c'est la défaite. J'ai failli dire la victoire. La défaite de Glasgow, c'est les poteaux carrés. Et c'est les premiers gros pleurs, grosses larmes, voilà, d'une 76.
40 ans,
c'est le 12 mai 76, une date qui restera à jamais gravée dans notre mémoire collective.
Ça, c'est sûr. Avant de rejoindre Joy Raffin, on va se faire un petit plaisir. On va revivre ce match d'hier soir entre la France et l'Albanie, mais en 74 secondes chrono, notamment grâce à Dimitri From Paris.
Isaïe. Attention à ce centre, ils étaient deux sur le poteau. La réussite pour l'arrière-garde française et pour Hugo Lloris.
Sacré français.
Payet, ouais, le bon contrôle et la bonne transmission pour la course de Patrice Evra. Nouveau centre, Giroud. Oh, le poteau. La prochaine fois, ce sera la bonne. La prochaine fois, ça va passer pour Olivier Giroud.
Sacré français.
Kanté, Payet, remet ce ballon au second poteau, il y a Pogba. C'est Agoli qui s'est encore une fois imposé de la tête. Le centre, Rami. Ouais, Antoine Griezmann, 90e minute. Voilà, il fallait encore un sauveur. Voilà, les Bleus adorent nous faire patienter jusqu'au bout du bout. 1-0.
Sacré
point. Il y a Pierre Gignac. Et il y a aussi Dimitri Payet. Là, il peut. Là, il peut. Là, il va. Là, il va. Dimitri Payet. Son deuxième but dans cet Euro, dans le temps additionnel du temps additionnel. 2-0 pour les Bleus.
Sacré français.
Eh oui, sacré français. Cela dit, ils sont qualifiés maintenant pour les huitièmes de finale. Alors, quelle place du groupe ? On verra ça dimanche prochain face à la Suisse à 21h. Mais nous sommes qualifiés pour les huitièmes de finale. C'est déjà pas si mal. Il est 20h12 sur Inter. Voici maintenant notre baraque à foot. Le journal pop culture de l'Euro 2016 est signé Joy Raffin. Rebonsoir Joy.
Rebonsoir Colin.
Alors qu'est-ce qu'on trouve dans la baraque à foot ce soir ?
Alors on commence par un petit sondage comme je les aime.
Oui, allons-y.
À l'occasion de l'Euro, le site de recrutement Monster a demandé à un échantillon de 1013 Français à quel poste ils joueraient si leur entreprise était l'équipe de France. Renaud, vous diriez quoi ?
Numéro 10.
Mathieu ?
C'est bien.
Mais il a pris le meilleur poste. Renaud a pris le meilleur poste.
Il y en a qu'un.
Numéro 10, c'est celui qui fait bosser les autres. C'est pour ça, en fait.
Oui, voilà. Il distribue.
Il ne court pas, il distribue.
Attaquant de pointe. Attaquant de pointe.
Ou le gardien.
Le gardien,
ah bah oui,
super.
Le gardien
on a presque tout. Quoi. Ouais, c'est le défenseur, c'est parfait. Eh bien, les résultats sont les suivants. 15% des gens sondés ont répondu capitaine. Alors, c'est pas un poste en soi, je sais, mais Monster n'a pas fait dans le détail. Donc, 15% capitaine. 18% ont répondu gardien. 20% attaquant. Et oui, et c'est 46% des Français interrogés qui se voient défenseurs. Donc, je dois vous dire maintenant que Monster posait la question en définissant défenseur comme solide dans les moments difficiles, dévoué au collectif et régulier dans l'effort.
Donc, tout le monde veut être défenseur.
Voilà, aucunement question de tacle avec les deux pieds ou de coup de coude dans le nez, c'est hyper propre. À noter aussi que plus on est âgé, plus on se voit défenseur. Et plus on a un haut niveau d'études, plus on se voit capitaine, évidemment. Donc sans trop de surprise et de modestie, les Français préfèrent assurer leur arrière plutôt que de prendre le risque d'un leadership. Voilà. Et après ça, on reproche à Deschamps de ne pas trop se mouiller. Je dis ça, je ne dis rien.
Allez, quoi d'autre dans la baraque à foot ?
Un sorcier allemand.
Ah.
Eh oui. Un sorcier allemand du nom de Wolfgang Ulfelner. Est-ce que quelqu'un sait qui c'est ?
Pas du tout.
Pas bien, non.
Mais je vais vous dire, heureusement. Wolfgang Ulfelner, c'est le chauffeur de bus de la Mannschaft depuis plus de 20 ans.
Ouais.
Alors à la base, Wolfgang, il avait été recruté au service postal de la Deutscher Fußballverbund, la fédération allemande de foot, quoi. Mais quand le boss s'est rendu compte que Wolfgang savait conduire les gros bus, parce que ses parents avaient eux-mêmes une entreprise de transport en autocar, Wolfgang a été muté chauffeur. Forcément, ils sont pas cons, les Allemands. Mais si je vous en parle ce soir, c'est parce que le journal L'Équipe nous révèle que Wolfgang serait peut-être en fait le secret, le sorcier ou le porte-bonheur de la Nationalmannschaft, l'équipe allemande. Depuis la Coupe du Monde 2014 au Brésil, avant chaque match de l'Allemagne, Wolfgang vient enterrer dans un coin du terrain une pièce de 1 centime offerte par un fan club de la sélection. Donc les pièces en question, c'est pas n'importe quelle pièce. Hein. Ce sont des pièces datées de 1972, 1980 ou 1996, les dates des victoires de la Mannschaft à l'Euro. Et samedi dernier, avant le match face à l'Ukraine, on a pu voir Wolfgang s'accroupir et enterrer sa petite piécette près du poteau de corner. Vous le savez, l'Allemagne a gagné. Donc, comme dirait Gary Lineker, le football est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. On est d'accord, mais surtout parce que Wolfgang est là. Ouais.
Quoi d'autre, Joy, ce soir?
Un footballeur nord-irlandais et une chanson. Enfin, surtout une chanson d'ailleurs. Le footballeur, déjà, est-ce que vous voyez de qui je parle?
Best.
Non.
Mais ça aurait pu.
Mais ça aurait pu, un footballeur.
C'est Grieg.
Voilà. C'est Will Grieg.
C'est là qu'on voit que je suis vraiment vieux. Pardon. Excusez-moi.
Mais non, c'est pas grave. On l'aime beaucoup, Georges Best. C'est très bien aussi. Non, mais là, c'est Will Grieg, qui a 24 ans en ce moment. Hein. Le numéro 9, un attaquant de la sélection nord-irlandaise. Donc, Will Grieg, c'est la méga star de l'équipe. Mais il joue en championnat anglais, hein, donc pas de panique si vous le connaissez pas. Mais sachez que chez lui, il déchaîne les passions parce qu'en fait, il a réussi cette saison à faire remonter l'équipe de Wigan en Ligue 1 en étant le meilleur buteur. Donc ça crée un mythe, vous voyez. Et donc à cette époque, un fan un peu dingue a posté sur internet une vidéo dans laquelle il chante, tout seul, face caméra, un hymne à Will Grieg. Et cette hymne, c'est sur l'air connu de Freed from Desire, la chanson des années 90 de Gala, et ça a été vu des milliers de fois, et aujourd'hui on peut le dire, c'est une des chansons phares de l'Euro. Alors pour preuve, vous allez l'entendre, je vais faire tourner le son, ce sont des supporters nord-irlandais dans les rues de Nice, lors du match contre la Pologne dimanche dernier. Et donc ils ont perdu, mais la chanson Will Grieg's on Fire, en gros, Will Grieg est déchaîné, c'est entendu partout. Marco, on la met plus fort. Voilà, donc Your Defense is Terrified, votre défense est terrifiée parce que Will Grieg est déchaîné. Et donc pour le président du club de Wigan, ce chant est carrément le meilleur jamais créé. Rien que ça. Et Gala, l'interprète par contre de la chanson originale, a elle aussi réagi à la reprise en disant qu'elle était hyper fan de foot italienne et qu'elle était flattée, heureuse du parcours de l'Irlande du Nord et qu'un jour, elle aimerait bien rencontrer Will Grieg. Si moi j'aime bien cette chanson. Alors
allez, je pense. Et votre homme du jour ce soir, Joy?
Mon homme du jour a un prénom français, un nom de famille polonais et des tonnes de surnoms dans toutes les langues. Le Beckham polonais, Serial Golor ou Superman. Alain Renaud, il sait qui c'est, il me fait un petit sourire.
Alors c'est Renaud. Qui, Renaud?
Ce n'est pas Andrei Zarmak, c'est Robert Lewandowski.
Bravo, voilà, magnifique.
Bobek, comme on l'appelle, enfin mes amis polonais et moi. Bobek, c'est 42 buts cette saison, dont 5 buts marqués en 9 minutes. Ce qui est quand même assez incroyable. Un père judoka, une mère volleyeuse et une femme ancienne championne du monde de bronze de karaté. Donc c'était au championnat du monde en 2008. La vie de Bobek est très sportive et très très clean. D'ailleurs, la très jolie Madame Lewandowski est aujourd'hui diététicienne, enfin de luxe hein, quand même. Et c'est elle qui prodigue les meilleurs conseils à son mari. Et donc on a appris que l'un des secrets de Bobek, soufflé par Anna, sa femme, c'est le suivant. Il mange ses repas à l'envers. En gros, il commence toujours par le dessert, puis le plat. Et puis l'entrée, voilà. Et ben moi, je serai les Allemands, je me méfierai ce soir.
Alors maintenant, la réponse à notre sondage Twitter d'hier, Joy.
Hier, je vous ai demandé ce que vous pensiez de l'équipe islandaise. Et je vous annonce donc que vous avez été 4% à répondre que selon vous, l'équipe islandaise est mollassonne. Pas très sympa. 46% d'entre vous à répondre que l'équipe islandaise utilise trop de consonnes. On est bon hein, sur le sondage Twitter. Et 50% à répondre, donc c'est ce qui remporte le plus de voix, que l'équipe islandaise désarçonne, et on est bien d'accord.
Absolument. Et John, notre sondage de ce soir, quel est-il?
Eh bien, donc à l'occasion de la qualification de l'équipe de France en 8e de finale de l'Euro hier, diriez-vous que ce match à suspense, digne d'un film d'Hitchcock, aurait pu avoir pour titre réponse A, sueur froide. Réponse B, l'ombre d'un doute. Réponse C, La mort aux trousses. Mm-hmm. Voilà. Ah, culture, inter, tout ça, Hitchcock, super. Allez voter sur le compte Twitter de l'œil du tigre. Réponse demain dans l'émission.
Eh bien, on verra ça demain soir.
Exactement.
Joy, merci.
Et on a hâte.
Ben oui, on a hâte. On a hâte. Merci beaucoup, Joy. Je vais enchaîner sur une autre question que j'aime bien poser autour de cette table. Je crois que c'est dans le film de Ken Loach, Looking for Eric. Ken Loach fait dire à son héros, tu sais, dans la vie, on peut changer de femme, on peut changer de pays, on peut changer de métier, on peut changer d'idée, mais pas de club de foot. Le club de foot, c'est dans ton cœur pour toute la vie. Donc, à tous les trois, je vous pose la question, quel est votre club de cœur ? Renaud Dely.
Ah, je suis un léger contre-exemple parce que j'ai un souvenir aussi d'enfance qui est à peu près le moment où j'ai basculé d'un club à un autre. C'est la finale de la Coupe de France 1982, Saint-Étienne-PSG. Parce que pour tout vous avouer, au risque de vous décevoir, Philippe, au début du match, j'étais un fervent supporter de Saint-Étienne. Et à la fin du match, vous vous souvenez de ce match, j'ai basculé du côté du PSG. C'est la première victoire du PSG en 82, Borrelli qui embrasse la pelouse.
Premier titre.
Voilà, et le PSG remporte la coupe au tir au but. Rocheteau égalise à la dernière minute, enfin dans les dernières minutes de la prolongation me semble-t-il. Et j'avoue que j'étais un fervent supporter de Saint-Etienne jusqu'à ce match-là et que j'ai basculé dans ce qui est, pour l'équipe qui est celle de ma ville, PSG en 82,
le
premier de
cette finale. Je repose ma question. Si il y a à nouveau une finale de Ligue des Champions entre Paris et Saint-Etienne, par exemple, tu soutiens qui alors ?
Ah, aujourd'hui, bah, PSG. Donc, j'ai basculé à ce moment-là, vous savez.
Oui, ah, donc t'as oublié ton club de cœur.
Bah, il y en a qui ont changé entre 40 et 45. Voilà, moi, ça a été en 82 pendant la finale de la Coupe de France. J'assume, j'avoue. Voilà.
D'accord. Mathieu Depriec, le club de cœur ?
Le Liverpool.
Ah, le Liverpool.
Football club.
Et pourquoi le Liverpool ?
Eh ben, ça s'explique difficilement. Enfin, ça s'explique en deux temps. En 2001, je tombe sur la finale de la Coupe de l'UEFA, qui s'appelait à l'époque la Coupe de l'UEFA, qui est la petite Coupe d'Europe, entre Liverpool et Alaves. Match qui se termine par 5-4 en prolongation, qui est un match absolument dingue. Je perds un peu de vue les Reds de Liverpool, parce qu'à l'époque, voir du foot étranger, c'était pas encore aussi facile qu'aujourd'hui. Je regarde de temps en temps les résultats et je retombe vraiment dessus. Le soir de la finale d'Istanbul, le Liverpool Football Club est mené 3-0 par le Milan AC, revient à 3 partout et gagne le tir au but. Et je me dis, en gros, les deux matchs qui me font le plus vibrer à chaque fois concernent les Reds de Liverpool. Je peux plus lâcher ce club et je n'ai plus lâché ce club. Malheureusement, ils gagnaient des titres avant. Mais depuis que je les supporte, ils gagnent beaucoup moins de titres. Donc,
Mais ça reviendra. On est passé à pas grand-chose là, cette année quand même.
Oui. En finale, la finale contre Séville.
Bah oui, bien sûr.
On a eu deux finales.
Un titre européen était presque décroché. C'était pas mal.
Mais en tout cas, moi, c'est mon histoire avec Liverpool, c'est qu'à chaque fois, je me dis, on n'est pas loin. Et quand je commence vraiment à m'investir dans le match, on perd.
Mais c'est ça la vie de supporter.
Mais ça, c'est bon,
Mathieu. C'est la vie de désillusion.
Encore plus difficile, voilà. C'est qu'en Angleterre, les matchs. Et souvent Liverpool cette année, parce que Liverpool était moins médiatique et moins médiatisé que les grands clubs, jouait le samedi à 13h15, donc en tout début de week-end, ce qui permet de bien pourrir tout le week-end.
Nice.
Alors qu'en France, si on perd le samedi soir à 20h, on va se coucher, le lendemain on se réveille, c'est une nouvelle journée. À 13h15, ça nous pourrit bien le week-end.
Ah oui, tout le samedi après-midi, ouais. Le samedi soir et ouais. Le dimanche on pleure.
Voilà, c'est
on
ça.
On voit les autres qui partent loin en classement devant, et puis nous, voilà. Je vois bien ce que c'est, je supporte Marseille. Didier Lockwood, votre club de cœur ?
Bah, je suis chauvin, donc c'est naturellement le PSG, mais j'ai eu un gros coup de cœur pour le Flamengo quand j'étais au Brésil. Et je suis allé voir des matchs du Flamengo Maracana. Et je dois dire que j'étais enthousiasmé par cette chorégraphie qu'avaient à cette époque les Brésiliens. Et qu'ils ont perdu d'ailleurs. Ils ont perdu leur musique et leur football.
Ça, c'est très juste ce que vous dites. Je l'ai lu cet après-midi. Vous dites en effet que tout doucement, on a vu la musique brésilienne un peu disparaître au niveau mondial, au profit notamment de la musique américaine. Et que vous faites un parallèle avec le football. C'est vrai que le foot brésilien est un peu en recul. Hein. On a vu ça à la dernière Coupe du Monde. Là, à la Copa América, ils se sont fait sortir assez rapidement. C'est vrai que c'est assez juste ce parallèle entre une musique et un football qui disparaissent tout doucement.
Ben, je trouve que quand la dimension artistique part du sport, de l'acte sportif, on perd la performance, mais on perd surtout la beauté du sport, du geste. Et c'est vrai que les Brésiliens, c'était des danseurs. Et c'était extraordinaire. Et il y avait cette relation très intime avec le rythme, vous voyez, qu'on a perdu un petit peu aujourd'hui. On est plus dans la relation de force,
physique,
de performance. Mmh. Mais voilà, on a perdu un certain esthétisme qui était fabuleux à l'époque. Même dans je trouve que c'est général au football.
Je sais que vous aviez une admiration pour un grand joueur yougoslave du Paris Saint-Germain qui s'appelait Safet Susić.
Ah oui, ouais.
On dit un mot de Safet Susić,
c'était un visionnaire. Je veux dire, il baissait la tête et il envoyait le ballon, il distribuait à des distances incroyables et ça tombait dans les pieds des partenaires. Et ça, c'est ça touche l'intuition. Je crois que les grands footballeurs aussi sont ceux qui ont une relation très intime avec leur intuition. Vous voyez, il y a la technique bien sûr, mais il y a la vista, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de savoir où sont les autres, on les sent.
Renaud, un mot sur Susić, tu t'en rappelles, ça fait.
C'était mon idole, c'est justement. J'ai basculé du côté du PSG, je me souviens. En plus, j'ajouterais, non seulement tout ce que vient de dire Didier Lecoud, mais en plus, il avait, pour le coup, un physique assez banal. C'était tout sauf une force de la nature. Il courait pas vraiment, il marchait beaucoup. Mais c'est ce qui fait aussi la grandeur du football, ce qu'il faisait. Et en tout cas, ça continue, mais les qualités athlétiques sont pas forcément déterminantes au regard des qualités techniques et surtout de la vision du jeu qu'avait Susić. Moi, je me souviens dans les années 80 de matchs auxquels j'allais assister au PSG. Je me souviens d'un PSG Bastia, je crois, en 84, un 7-1. Paris était très mal classé en championnat, mais il avait fait un nombre de passes décisives absolument incroyable. C'est vrai que c'est vraiment l'essence même du joueur, du meneur de jeu, d'un jeu collectif comme doit l'être le football.
Je précise juste là ce soir à ce micro que demain soir, donc l'émission sera consacrée à un livre qui s'appelle Le Dernier Penalty, écrit par un journaliste italien qui s'appelle Gigi Riva. Le Dernier Penalty, c'est le dernier penalty tiré par l'équipe yougoslave en Coupe du Monde en 90 contre l'Argentine, puisqu'après donc le pays s'est donc disloqué avec la guerre des Balkans. Et demain soir, il y aura Farouk Azizbegic qui sera à ce micro, qui est donc le dernier tireur de penalty yougoslave, qui était un compatriote et un collègue de terrain de Safet Susić. Donc demain soir, ils seront là tous les deux. Avec Gilbert Melki, et donc nous serons ravis de parler de ça avec eux tous les trois.
C'est un livre remarquable. Il s'avère que je l'ai lu hier.
On a dit un mot rapidement. C'est un livre extraordinaire.
C'est un livre extraordinaire qui raconte effectivement la destinée de ce pays qui n'est plus à travers ce penalty, la destinée d'Azizbegic. Et puis c'est vrai qu'il y avait aussi au même moment, enfin l'année suivante, on se souvient de l'Étoile Rouge de Belgrade qui remporte la Ligue des Champions
contre Marseille.
Qui n'était pas encore la Ligue des Champions d'ailleurs, la Coupe d'Europe des clubs champions en 91. C'était vraiment la fin d'un pays. Et c'est vrai que Azizbegic illustre exactement cette histoire-là. Quoi.
Et il raconte, on va dire, le début du livre, hein, ça commence comme ça.
C'est qu'en fait,
chaque fois qu'il croise des compatriotes yougoslaves, c'est-à-dire qu'ils soient croates ou bosniaques ou slovènes, ils lui disent tous « Ah mais quand même, si tu l'avais pas raté ce penalty, peut-être qu'on n'en serait pas là. » Alors évidemment, c'est un fantasme romantique, mais c'est pour lui, sa vie est portée par ce pénalty raté contre l'Argentine de Maradona.
Ce qui fait de lui qu'en fait, 26 ans après, il est toujours yougoslave, de fait.
Absolument, absolument. Donc demain soir, on aura Farouk à ce micro, donc on vous attend demain soir aussi pour parler de l'ex-Yougoslavie à travers le football. Il est 20h27, on fait une première pause musicale. Voici le génie belge Stromae, Tequiro.
Un jour je l'ai vu, j'ai tout de suite su que qu'on allait devoir faire ces jeux absurdes. Bijoux, bisous et le tralala, Modou et Kuba, insultes, coups, etc, etc. Non, pas les miens mais les siens, oui. Notre enfant deviendra aussi le sien ensuite. Enfin c'est le juge qui insistera, j'imagine. Imagine-moi, télé sous le bras et mes jeans sales et puis tout ça. Je l'aime à mort, mais pour la vie, on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Oui, je l'aimais tellement que je l'aime encore. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Te quiero. Jusqu'à la mort. Te quiero. Te quiero. Un jour je la reverrai, je le saurai tout de suite. Que ce sera reparti pour un tour de piste. Un môme de plus, un nouveau juge. Et puis leurs odeurs de pisse, ça deviendra juste une fois de plus répétitif. Imagine-moi dans mes vieux jeans, mais cette fois-là sans domicile. Le moral bas en haut d'un pont, d'une falaise ou d'un building. J'aurais l'air d'un con quand je sauterais dans le vide. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, mais pour la vie, on se dira oui à la vie, à la mort. Et même en changeant d'avis, même en sachant qu'on a tort, on ne changera pas la vie. Donc comme tout le monde, je vais en souffrir jusqu'à la mort. Je voudrais être son ombre, mais je la déteste. Même au bout du monde, et bien qu'elle y reste. Oui, je l'aimais tellement que je l'aime encore. Je n'aurai pas le choix, non, jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort.
Te quiero. Te quiero.
Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort, je l'ai ma mort, je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort. Je l'ai ma mort.
Ici, le public impatient attend, et plus que cela, que le ballon enfin, selon les cœurs, tombe dans ces filets-ci, ou cela, ou aille au diable.
L'œil du tigre. Philippe Collin, sur France Inter.
Il est 20h31 sur Inter, nous allons prendre la direction du Stade de France à une demi-heure de ce coup d'envoi entre l'Allemagne et la Pologne, où nous attend là-bas Franck Ballanger.
Let's go!
Let's go!
Paris, Bordeaux, Le Mans, Paris, Bordeaux, Le Mans, Paris, Bordeaux, Le Mans. Allô, tu
m'entends?
Et pourtant, le stade est plein à craquer.
Bonsoir Franck.
Bonsoir Philippe.
Alors, quelle est l'ambiance ce soir au Stade de France? Franck, est-ce que c'est une humeur fraternelle entre l'Allemagne et la Pologne ce soir?
Alors pour l'instant, c'est absolument parfait. La température est bonne, il ne pleut pas. Et l'ambiance dans les travées du stade ou même dans les tribunes, eh bien, elle est absolument parfaite. Pas de heurts, pas d'animosité. Tout le monde s'aime et on attend de voir un grand match de football.
Voilà, du beau football, tu as raison Franck. Il y a dans cette équipe polonaise, Franck, un joueur qui parle très bien le français. Il s'appelle Krikoviak, il joue au FC Séville. Il a beaucoup joué en France jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et dans l'équipe ce matin, il disait « On a le potentiel, nous les Polonais, pour être une équipe surprise dans cet Euro ». Est-ce que la Pologne peut bousculer un peu la Mannschaft ce soir, Franck?
Ah oui, bah il suffit de regarder les résultats des éliminatoires. L'Allemagne, la Deutsche Mannschaft et la sélection polonaise étaient dans le même groupe. Résultat au match aller à Varsovie, la Pologne l'a emporté. Et au match retour, les Allemands se sont imposés. Match nul, balle au centre. Entre parenthèses, c'était la première victoire de l'histoire pour les Polonais contre les Allemands. Match retour, enfin la belle ce soir, mais effectivement, les Polonais de Krychowiak, l'ancien joueur du Stade de Reims, formé au Girondins de Bordeaux, eh bien, ils peuvent sans aucun doute embêter cette équipe allemande. Hier, en conférence de presse, Joachim Löw, l'entraîneur allemand, qui s'est mis en évidence hein, sur le premier match de son équipe, sur le banc de touche, en mettant sa main là où personne ne la met normalement.
Absolument, Franck.
Eh bien, Joachim Löw nous a expliqué que, effectivement, il craignait cette équipe polonaise, qu'il savait que ce serait un match compliqué, serré, tendu, âpre, et qu'il s'attendait à souffrir tout simplement.
Eh bien, on verra ça ce soir. Franck, tu les fréquentes pas mal, ces joueurs allemands. D'ailleurs, tu parles plutôt bien allemand. Mais il y a quelques jours, tu m'as raconté que tu avais parfois un peu de mal à comprendre la vedette Thomas Müller quand il parle allemand. Pour quelle raison, Franck?
Non, là, t'es très gentil. J'ai pas un peu de mal. Je ne comprends rien du tout. Quand Thomas Müller parle, je ne peux rien comprendre. Et j'avais demandé, je me souviens, c'était au Brésil. Ouais. J'avais demandé à un journaliste allemand, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Je ne comprends rien. Ah, Thomas Müller. Il me dit, alors, je vais t'expliquer. Thomas Müller, il est bavarois. Il est né en Bavière. Il a toujours joué au Bayern Munich. Il a atterri au club. Il avait 10 ans. Hein. Il en a 26. Donc vraiment, c'est un bavarois pur jus. Et en plus, il parle un petit peu comme un, je sais pas comment tu dis, comme un lascar, voilà.
Ouais, d'accord.
Donc c'est un lascar bavarois. Alors les autres joueurs l'adorent, tout le monde l'adore, en Allemagne il est très populaire, mais en revanche pour un Français comme moi qui essaie de parler allemand, c'est totalement incompréhensible. Et puis l'autre jour, je suis allé le voir et j'ai essayé de lui parler anglais. Et là, il a fait un signe, genre, je comprends pas ce que tu me dis. Et donc, il a tourné les talons, il est parti et j'ai pas eu d'interview.
Voilà. En tous les cas, ça le rend sympathique, je trouve, ce Thomas Müller.
Mais il est. Et puis en plus, il ressemble à Monsieur Tout le Monde. Hein.
Absolument.
Ça pourrait être votre voisin de palier.
Absolument.
Il est pas spécialement athlétique, il est grand, un peu maladroit, mais quel joueur de foot.
Bah, absolument. Merci beaucoup, Franck. Bon match ce soir. On se retrouve sur les antennes de Radio France et de France Inter, évidemment, pour ce Allemagne-Pologne. Merci, Franck. À bientôt. Salut.
À bientôt.
Un mot, Renaud Dely, sur cette équipe d'Allemagne. Est-ce que tu les as vus jouer déjà un petit peu?
Oui, j'ai vu le match contre l'Ukraine. Moi, je suis étonné à quel point elle a été critiquée. Voilà, il suffit de regarder ensuite un match d'équipe de France pour se rendre compte que
c'est pas le même niveau tout de suite.
Non. Et donc, je serais très 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 banal une fois de plus en disant, j'imagine pas qu'elle n'atteigne pas au moins le dernier carré. Mmh. Et pour moi, c'est même encore la favorite de cette compétition. Pour le coup, c'est une vraie équipe, ce qu'on avait vu en 2014 d'ailleurs. Franck Ballanger évoquait à raison Thomas Müller à l'instant, qui est l'un des meilleurs joueurs, mais pas pour autant la vedette de cette équipe, parce que dans cette équipe, il n'y a pas de vedette. La vedette, c'est l'équipe, et c'est vrai que ce collectif-là, il reste extrêmement solide. Le fait qu'il soit rentré mollement dans la compétition contre l'Ukraine, ne laisse pas présager, et pour autant, à mon avis, qu'il faiblisse, je pense pas.
Mathieu Despriez, qu'un mot sur la Mannschaft, grosse équipe, en effet.
Ce qui m'étonne le plus, c'est le contrôle. On a l'impression que c'est une équipe qui est toujours dans le contrôle. Même dans les moments difficiles, on a l'impression qu'eux-mêmes savent qu'ils vont sortir de cette période de creux, que 10 minutes après ça ira mieux, qu'ils vont reprendre le dessus petit à petit. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est cette espèce de confiance en eux qu'ils ont. Effectivement, moi, comme Renaud, je ne les imagine pas manquer le dernier carré. C'est peut-être ce qui est un peu agaçant aussi, c'est qu'on se dit, ils sont toujours dans le dernier carré, ils seront toujours en finale, ils gagneront toujours une compétition sur deux. Voilà, c'est un côté un petit peu... Enfin, moi qui supporte, on parlera après le foot anglais, qui est plus en dents de scie, voilà.
C'est moins évident, voilà. Ouais, évidemment. Là, tout de suite, sur France Inter, à 20h36, Didier Lecoux va nous faire un petit cadeau, puisqu'en hommage à l'équipe de France qui a remporté son match hier soir contre l'Albanie et donc s'est qualifié pour les huitièmes de finale, j'adore ce moment. Hein. Donc Didier Lockwood va donc nous jouer une Marseillaise à sa sauce, et c'est ça qui me fait plaisir, au violon, s'il vous plaît. Didier, c'est quand vous voulez. Le maestro s'installe. Comme l'esprit de ce qu'elle représente, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça.
Renaud, un mot sur la Marseillaise.
C'est là qu'on voit que France-Albanie, le match d'hier, est quand même, sur le plan musical, beaucoup plus intéressant que l'Allemagne-Pologne de ce soir, parce que vous connaissez la différence entre les deux matchs, Philippe Collin. France-Albanie, ça donne envie d'écouter du Didier Lockwood, alors que Allemagne-Pologne, ça donne envie d'écouter du Wagner, évidemment. C'était Woody Allen. Hein.
Non, mais c'est une très bonne vanne ressortie. Ça fait 2 jours que personne n'ose la faire. Et moi, j'adore que tu l'aies faite.
Vous pouviez compter sur moi.
Je te remercie d'avoir fait
ça. Vous m'aviez invité pour ça, d'ailleurs.
Bien sûr, mais c'était une excellente vanne de Woody Allen, reprise par Renaud Dely. Et donc, ça donne envie d'écouter du Wagner. Je la refais pour moi, ça me fait plaisir.
Voilà. Je préfère du Didier Lockwood.
Mais on est bien d'accord. On est bien d'accord. Bon, allez, on enchaîne maintenant. Dans la
légende arthurienne, autour de la table ronde dressée par Merlin l'Enchanteur, il y a de preux chevaliers. Et ils sont nombreux, 150 exactement. Mais parmi eux, rares, très rares sont ceux dont le patronyme porte l'origine géographique. Perceval le Gallois, lui, a ce privilège. D'ailleurs, c'est une star, ce Perceval, qui est donc dans son pays et qui précède la conquête du Pays de Galles. La légende arthurienne, elle précède la conquête du Pays de Galles par la couronne d'Angleterre. Alors autant vous dire que le match qui a eu lieu cet après-midi entre l'Angleterre et le Pays de Galles est une affaire plus que séculaire. Qu'en penses-tu, Perceval ?
Je suis Perceval le Gallois.
Sire, Gauvin suis appelé.
Si le baiser, elle consent, le surplus, je vous le défends.
Le baiser, je vous baiserai par mon chef. Tant pis pour qui m'en fait grief, car ma mère me l'enseigna.
Moi, je ne te baiserai pas.
Eh oui, on est sur France Inter, on parle de football, arrive Eric Romer et tout simplement Perceval le Gallois avec Fabrice Lucchini. Tout va bien. Mathieu Depriec, je sais que vous êtes un grand connaisseur du football britannique. Je voulais tout simplement commencer cette interview en vous demandant qu'est-ce que ça raconte finalement le match de cet après-midi entre le Pays de Galles et l'Angleterre. L'Angleterre qui a gagné le match 2-1 d'ailleurs.
C'est amusant que vous reveniez à l'époque arthurienne parce que j'ai l'impression que sorti de l'époque arthurienne, il n'y a plus beaucoup de rivalité entre les Gallois et les Anglais. En fait, ça dépend de quel côté on se place. Si on se place du côté gallois, je pense qu'il y a une forte rivalité. C'est-à-dire que les Gallois se sont toujours sentis écrasés par les Anglais qui disaient qu'en gros, le Pays de Galles avait été leur première colonie et sera leur dernière. Si on se place du côté anglais, il y a du mépris, enfin, il y a un peu de l'indifférence. Ils ont beaucoup plus à faire avec les Irlandais, avec les Écossais, qu'avec les Gallois. Je vous prends juste 30 secondes, parce qu'il y a une histoire qui est assez amusante.
Allons-y, allons-y.
Dans les années 50... Liverpool, on y revient, et sa région veut développer son industrie. Et pour ça, ils ont besoin d'eau, de faire venir énormément d'eau. Ils choisissent alors de construire un lac artificiel au Pays de Galles. Et bien sûr, les élus gallois et les habitants s'y opposent. Au Parlement britannique est débattue une loi. Les Gallois votent contre, les élus gallois votent contre. Et malgré tout, le lac artificiel va être construit, des villages vont être inondés. Et tout cet épisode était censé faire naître une identité galloise très forte, va naître l'armée de libération du Pays de Galles. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'on va découvrir des années plus tard que la police anglaise avait surveillé cette armée de libération galloise, un peu comme l'avait fait avec l'IRA en Irlande. Et les conclusions sont en fait que le leader de ce mouvement, selon les enquêteurs anglais, ce leader avait l'âge mental d'un enfant de 12 ans, et qu'autour de lui, il avait une vingtaine de membres. Alors, les Anglais ont exagéré, mais ça prouve bien ce mépris qu'ils avaient, enfin ce mépris, cette indifférence en tout cas qu'ils avaient pour le combat et l'émancipation galloise. Et encore aujourd'hui, on retrouve ça. J'ai juste pris une petite phrase comme ça que j'ai notée. En 77, il y a un match de rugby, parce qu'en fait, la rivalité entre le Pays de Galles et l'Angleterre, c'est principalement rugby. Le Pays de Galles affronte l'Angleterre, match de rugby en 1977, et le capitaine gallois dit ceci pour motiver ses joueurs avant de rentrer sur le terrain. Il dit « Regardez ce que ces bâtards ont fait de notre pays. Ils nous ont pris notre charbon, notre eau et notre acier. Ils achètent nos maisons. Et qu'avons-nous en échange ? Rien. Nous sommes exploités, violés, contrôlés et châtiés par les Anglais. Et c'est contre eux que vous allez jouer aujourd'hui. » Ça a marché, le Pays de Galles a gagné. Mais voilà. Mais ça, c'est le côté gallois. Côté anglais, je pense qu'ils s'intéressent beaucoup plus à leurs voisins irlandais et écossais.
En plus, ça s'est plutôt bien passé. En plus, aujourd'hui, on craignait des affrontements, mais je crois que c'était plutôt calme.
C'était très calme.
Renaud ?
Oui, c'est vrai que pour moi, le Pays de Galles, ça reste vraiment un pays de rugby plutôt que de football. Mm-hmm. J'avoue que j'ai l'équipe des années 70 qu'évoquait Mathieu à l'instant, c'est vrai que c'est une équipe mythique avec Gareth Edwards, J.P.A. Williams. C'est vrai que le Pays de Galles a une identité rugbystique extrêmement forte qui lui a permis justement de rivaliser avec notamment avec l'Angleterre et puis de dominer d'ailleurs dans les années 70 et ensuite là d'ailleurs récemment au début des années 2000. Alors que sur le plan footballistique, j'avoue que c'est un... Et puis moi, je suis pas du tout fan de Gareth Bale. je trouve que c'est au risque de décevoir. Pour moi, c'est un sprinter. C'est-à-dire, il court extrêmement vite. Voilà, c'est bien. Mais bon, c'est utile hein, au football de courir extrêmement vite. Encore qu'on parlait de Safet Soudich tout à l'heure, c'est pas forcément la qualité déterminante. C'est pas un joueur du tout qui me plaît, qui me fait fantasmer.
Mais le football britannique en général, ça te parle ou c'est pas un football pour qui t'as un appétit particulier?
Ce qui me parle, c'est la culture du football britannique. C'est l'identité d'une part, c'est l'état d'esprit, c'est le fighting spirit. C'est pas l'aspect technique était quand même relativement longuement rudimentaire. Maintenant, aujourd'hui, on assiste à un double phénomène hein, qu'on connaît et en Europe et même au-delà d'ailleurs du continent européen. C'est-à-dire qu'on a à la fois une mondialisation du football qui fait que les niveaux entre les équipes nationales, on le voit au sein de cet Euro et on le voit dans les autres compétitions internationales, se rapprochent. Les matchs sont de plus en plus
serrés. Il n'y a plus de petites équipes. Il faut le répéter.
Quiconque a vu France-Albanie hier ne peut que le confirmer.
Il faut le répéter.
Et en même temps, il y a une homogénéisation aussi, me semble-t-il, du style, c'est-à-dire que les identités nationales des équipes, des jeux, sont beaucoup, les différences sont bien moindres. Et aujourd'hui, on peut pas dire que l'équipe anglaise soit pas une équipe technique. C'est devenu une équipe évidemment foncièrement technique aussi, même si elle garde quelques caractéristiques de son style antérieur.
Didier Lecoud, le gamin de Calais, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a un appétit pour ce football britannique ou ça a jamais été un football qui a marché sur vous?
Ben, vous savez, les Anglais nous ont quand même.
j'ai placé Calais à dessein. Hein, donc
on les a subis pendant 100 ans.
Ouais, mais ça m'intéresse et votre réponse. Voilà, ça m'intéresse.
Je dis toujours que je n'ai d'anglais que mon nom. Mais
c'est vrai, ça.
Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, en revanche, le football anglais est assez spécifique. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la vivacité. C'est un jeu qui ne s'arrête pas, c'est toujours en mouvement et assez créatif. Donc je sais pas, j'aime bien le football anglais, on s'ennuie pas quoi.
Mathieu, qu'est-ce que tu aimes toi dans ce football anglais?
Je rejoins ce que disait Didier à l'instant, c'est cette vivacité, ce mouvement, c'est ça qui est fascinant avec le foot anglais, c'est que on peut regarder à peu près n'importe quel match, on sait qu'on risque de peu s'ennuyer. Et ce qui est amusant, c'est que dans cet Euro, j'ai l'impression que l'Angleterre est en train d'être victime de cette vivacité. Quand on voit le match de cet après-midi et le premier match contre la Russie, on voit des joueurs qui courent un peu comme des poulets sans tête partout. Ils ont le ballon et ils sont tous persuadés qu'ils vont sauver le royaume tout seuls. Donc on voit Kane, des Sterling, des Sturridge, enfin, en gros tous ces joueurs qui sont,
mais souvent avec beaucoup de déchets aussi du coup.
Oui, et parce qu'ils sont adulés dans cette première ligue qui. Cette première ligue est construite.
La première ligue, c'est l'équivalent de la Ligue 1 en
Angleterre. Et cette première ligue, avec tout son argent, etc., toute cette médiatisation, construit des joueurs qui sont tous persuadés qu'ils peuvent sauver le monde à eux seuls. Et ça rejoint un peu ce qu'on voit avec l'équipe belge. Juste une petite parenthèse, l'équipe belge est tombée un peu dans ce problème. Et c'est pas un hasard si dans l'équipe belge, il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui jouent en première ligue. Mmh. Il y a un modèle de foot qui, en Angleterre, qui consiste à dire, je prends la balle et je vais faire quelques gris-gris, je vais courir le plus vite possible, j'essaie de mettre une frappe en lucarne. Alors que parfois, il faut faire 4-5 passes, mettre un plat du pied et ça suffit.
Absolument. C'était très juste.
Mais les Gallois jouent un peu pareil. Puis t'as beaucoup de Gallois qui ont été formés à Manchester United par Alex Ferguson, qui était un immense coach anglais. Donc il y a aussi quand tu regardes jouer l'Angleterre et le Pays de Galles, ils ont une façon de jouer qui est pas si différente que ça, finalement.
Et c'est ce qui explique que c'est toujours l'Allemagne qui gagne à la fin. C'est l'antithèse de la Mannschaft.
Absolument. Didier, pendant que vous interprétiez tout à l'heure votre Marseillais, je suis fasciné parce que je n'ai jamais fait de musique de ma vie. Donc moi, dès que je vois un musicien, ça me fascine. Je trouve ça très beau, je ne sais pas comment vous faites, ça me dépasse complètement. Mais je suis absolument admiratif. Et cet après-midi, je lisais des interviews de vous. Et vous y a un très beau parallèle justement entre le football et la musique. Et je vous voyais dans une vivacité, on parlait de vivacité là à l'instant, dans un instinct aussi, dans une spontanéité, puisque ce morceau, vous l'avez créé là avec nous. Ça vous parle, ça, cette spontanéité dans le football également?
Bah, bien sûr, moi, c'est l'improvisation. Je trouve que les équipes improvisent de moins en moins, et ce qui est dommage, parce que je crois que le génie, c'est aujourd'hui l'improvisateur, puisqu'on demande d'avoir des résultats avant de commencer le travail.
Bien sûr.
Donc, je crois que l'improvisation, ça s'improvise pas, ça s'apprend. C'est un réflexe. et c'est une rapidité de réflexe. Je voyais l'équipe de France, par exemple, souvent manquer le trait de génie à quelques dixièmes de seconde, parce qu'il y a une spontanéité qui ne se fait pas. Et c'est dommage, parce que c'est là où la réussite. Hein. Il suffit que, par exemple, le ballon parte tout de suite pour qu'on engage une situation de danger pour les autres. Parce que c'est cette vitesse de pouvoir traiter le temps réel le mieux possible. Et on voit souvent des équipes qui reculent, qui repassent le ballon en arrière et qui hésitent, en fait. Et je crois que l'improvisation, comme en musique, hein, quand j'improvise, je peux pas m'arrêter. Je dois toujours être en marche. Et si je m'arrête, ça veut dire que je doute. Et dès que je doute, le jeu et le jeu d'équipe est fini et terminé.
Et puis la spontanéité, autant en football que sur votre violon, elle crée le beau geste, en fait. Elle est là pour ça. C'est pas que l'efficacité, c'est aussi la beauté, en fait.
Oui, je crois que par la beauté, comme je disais tout à l'heure, la beauté du geste, que ça soit un violoniste, un footballeur ou un écrivain ou un peintre, c'est à travers cette gestuelle que va s'accomplir en fait son œuvre. Oui. Et je pense que le sport devrait redevenir une œuvre d'art. Tout ça, c'est de l'art, vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement, on rentre dans des questions de commerce aujourd'hui et des questions financières qui n'ont rien à voir avec ces principes qui sont plus philosophiques. Mais c'est vrai que pour le bonheur de notre regard, ça serait bien de voir des joueurs qui essayent de dégager une certaine intelligence à ce niveau-là. C'est une intelligence du sensible, on va dire.
Vous disiez que Safet Susić était un danseur pour vous.
Oui, c'était un danseur. Et d'ailleurs, ce qui était formidable, c'était aussi de le voir se placer dans la chorégraphie. On le voyait s'écarter tout d'un coup, et puis c'était là qu'il devait être, parce que c'est là où il voyait le jeu. En fait, il se mettait toujours là où il pouvait voir et anticiper le jeu. Donc c'était pour moi un grand improvisateur, puisqu'il anticipait tout le temps. Et c'est comme ça qu'il mettait tout le monde dans le vent, quoi. C'était absolument merveilleux.
Renaud, est-ce que ça te parle, ces parallèles artistiques et footballistiques? Moi, je trouve ça très beau quand il en parle, Didier Lockwood, alors je sais pas.
Ça me parle tout à fait. Sur le plan footballistique, je trouve que c'est la limite, parfois, qu'imposent les schémas tactiques extrêmement rigoureux, extrêmement pensés, extrêmement léchés, auxquels on assiste aujourd'hui, et qui, parfois, sont justement des freins ou des obstacles à l'expression de l'improvisation, du talent d'un joueur. C'est-à-dire que les schémas tactiques dans le football, c'est quelque chose d'indispensable. On évoquait donc Susić et les années 80, l'équipe du PSG de l'époque. Peut-être que les schémas tactiques à l'époque étaient aussi peut-être moins pesants, moins rigoureux, et que ça permettait aussi un talent comme celui de Susić de s'exprimer de façon plus libre. On l'a vu hier de façon assez significative, hein, lors de la première mi-temps de France-Albanie, où on a eu l'impression aussi de joueurs qui étaient enfermé dans un schéma tactique dont il n'arrivait peut-être pas à se libérer, à se dégager ou en tout cas à sortir. Et c'est vrai que un schéma tactique dans le football, aujourd'hui le football est devenu de plus en plus tactique, c'est un outil normalement qui doit se mettre au service de l'efficacité
et de la beauté,
collective des joueurs et de l'improvisation, du talent individuel de chacun d'entre eux. Et parfois on a l'impression que ça joue l'effet inverse.
Est-ce que c'est pas non plus très lié au jazz, Didier Lockwood, cette improvisation? Parce qu'on parle de schéma tactique, mais une partition, parfois elle est aussi fermée. Enfin, il faut respecter de lire la musique, et puis si on la lit mal, on dit que c'est une fausse note. Est-ce que c'est pas le jazz aussi qui permet cette improvisation et cette folie?
Justement, le jazz, c'est l'antithèse de la musique, on va dire, écrite. Puisque je suis dans le culte de l'erreur. C'est à travers l'erreur qu'on apprend. Je veux dire, quand l'équipe joue mal, on fait un débriefing, et c'est dans le débriefing qu'on apprend des choses. Donc il faut produire de l'erreur pour la réduire, et en fait c'est la réduction de l'erreur qui fournit et qui fabrique nos vraies créations, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est pour ça qu'il faut s'engager. Si on ne s'engage pas, on a peur de l'erreur, on ne va pas produire d'erreur, mais on ne va rien produire du tout. Et il faut savoir que la perfection qu'on cherche, c'est la mort.
Bien sûr.
Donc je pense qu'il y a cette folie de vivre qui doit se retrouver un peu dans tous nos actes de vie. Et quand vous parlez d'improvisation, je suis désolé de vous apprendre que nous le faisons à chaque instant de notre vie, plus ou moins bien avec sûr. Des résultats. L'improvisateur se doit d'avoir une connaissance très large des choses pour pouvoir puiser instantanément pratiquement toutes les ressources qui vont faire son génie.
Et parfois pour improviser, il faut avoir beaucoup travaillé. C'est-à-dire, je vous regardais tout à l'heure aussi, je me dis c'est quand même beaucoup de travail d'être un musicien. Il y a eu beaucoup de répétitions du geste, beaucoup, 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 comme le footballeur oui. qui peut improviser parce qu'il a une base très solide, qu'il a beaucoup, beaucoup, beaucoup répété la reprise de volée, comme vous jouez sur vos cordes. C'est un peu la même chose ça aussi quand même.
Oui, alors ça c'est, moi j'appelle ça la mémoire cellulaire, c'est-à-dire que on fait rentrer dans le corps des informations. C'est les gammes, hein.
Bien sûr.
Donc on fait rentrer des informations qui ne vont plus passer par notre cérébral, notre cerveau, mais par le senti, donc l'intelligence de chacune de nos cellules. Donc ça devient une mémoire digitale en ce qui concerne le violon, une mémoire de la vista pour le football et aussi de l'espace, parce que
absolument.
Le footballeur ferme les yeux. Je voyais Payet dans son dernier but. Il ne regarde absolument pas le but.
Il se connaît l'espace.
Dans sa tête, il a
tout photographié en fait.
Il sait exactement, il a modélisé l'espace. Donc,
et d'ailleurs, sur le premier but que tout le monde a vu contre la Roumanie, c'est cette reprise de volée en pleine lucarne. On voit bien que c'est un geste presque voilà, instinctif et refait. Elle part toute seule la balle en fait.
Voilà.
C'est beaucoup de talent.
Le violoniste, c'est pareil puisqu'on joue à l'aveugle. Hein,
Bien sûr.
Voilà, donc on met en route ce type de mémoire.
Il est 20h55, ne quittez pas l'écoute car voici maintenant le DDF, le dingue de foot, une pastille sonore produite par Béatrice Duguay et Julien Collin. Rien à voir avec moi, je le redis. Ce soir, le dingue de foot s'appelle Hervé et c'est un supporter des Bleus, sans doute très heureux hier soir.
Ils sont dingues de foot.
On a un costume de bagnard bleu, blanc, rouge, avec le chapeau bleu, blanc, rouge. Et on est 5, donc on est de Avrel à Joe, en passant par Rentemplan.
Hervé, supporter de l'association des Dalton depuis 12 ans.
On est fouteux, on allait voir l'équipe de France depuis longtemps, mais quand on a eu des places au Portugal en 2004 lors de l'Euro, il y avait une bande qui c'était les Schtroumpfs, il y avait une bande qui c'était Obélix et Astérix. Donc on s'est dit, il va falloir qu'on trouve un thème. On est parti sur les Dalton et après le costume a suivi derrière. Moi je suis Avrel, donc il y a le L dans mon dos. Il y en a un qui a le D, il y en a un qui a le A, il y en a un qui a le T et le cinquième a le O.
Dingue.
Nous, notre cri de guerre, hein, vraiment, c'est la Marseillaise. La Marseillaise, c'est important. À chaque match, on enlève le chapeau, on le porte sur le cœur. C'est important de partager ce moment et d'être fier de nos couleurs et de supporter l'équipe de France. La plus belle Marseillaise, c'est celle à Wembley au mois de novembre, le 21 novembre. Celle-là, elle était remplie d'émotions. C'était en Angleterre, c'était les Anglais qui partageaient ce moment avec nous. Et puis, c'est suite quand même, on était au Stade de France le 13 novembre. Donc, c'est quand même des choses qui ont été remplies d'émotions et puis chaud quand même. Hein. Partager une Marseillaise avec des Anglais, j'aurais jamais cru que c'était possible. Quand j'ai revu après les images du match, on n'a pas cette impression que finalement les Anglais chantent autant. Parce que bon, c'est compliqué pour eux de chanter aussi. Hein. La communion des joueurs sur le terrain, elle était identique dans les tribunes. Fraternité, bien sûr, solidarité. On est tous ensemble, tous réunis pour un match de football. C'est quand même du jeu, c'est du plaisir. C'est des valeurs qui sont importantes qu'il faut mettre en avant.
Dingue de foot.
Complètement dingue de foot.
Allez, c'est fini pour ce soir. Merci à vous trois. Merci à Didier Lockwood et pour sa Marseillaise au violon improvisé. Il y a un album de Didier Lockwood qui vient de sortir qui s'appelle Apesantard. C'est à découvrir chez Frémo et Associés. Mathieu Depriec, merci beaucoup de votre présence ce soir.
Merci.
Renaud Dely, merci beaucoup.
Merci Philippe.
Et à très bientôt, j'espère. Vous trois, vous êtes les bienvenus sur ce plateau. Dans quelques minutes, Laurent Goumard à 21h après le flash. Laurent, bonsoir.
Bonsoir Philippe Collin.
Quel est le programme, Laurent,
quel
ce soir?
Quel est le programme ce soir du virtuel et de la figuration libre?
Très bien, ça c'est parfait.
Ouais,
ça,
on va
très,
même très... mettre un casque de réalité virtuelle.
Vous allez voir
ce que ça donne.
Ça fait bizarre, Laurent Goumard.
Vous avez
allez
déjà
voir.
Essayé?
Oui, beaucoup.
Ah ouais?
Je vous raconterai ça dans une autre vie.
Et c'est Robert Combas qui sera notre invité
magnifique,
deuxième heure.
Magnifique Combas. Merci beaucoup Laurent, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Je remercie Marco Mutel aux manettes ce soir, assisté de Raphaël Rousseau. Merci à toute l'équipe de l'œil du tigre. Nous sommes en retard, alors je fais vite. On se retrouve demain soir à 20h avec Farouk Azibezic. Je suis ravi de le recevoir. Vive le football, salut et fraternité.